Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
La marche organisée samedi rue de Charonne à Paris s'est transformée en cortège sauvage. Elle est organisée en hommage aux victimes du récent incendie. Des voitures et du mobilier ont été dégradées. Vous entendrez les commerçants des alentours. Une partie de l'autoroute A13 reste fermée ce lundi. Les automobilistes sont invités à prendre d'autres itinéraires. Plusieurs élus demandent à l'État la gratuité de l'A14 et du duplex de l'A86 pendant les travaux. Nous lui porterons de nouveaux coups durs et cela arrivera bientôt. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou dimanche. Le Premier ministre israélien est déterminé à lancer l'assaut sur la ville de Rafah pour libérer les otages dans la bande de Gaza. Et puis le PSG surclasse Lyon sans Mbappé et se rapproche du titre. On reviendra sur la victoire des Parisiens 4-1 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une victoire acquise en première période grâce à un doublé de Ramos. Bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Parmi les temps forts de l'actualité, une manifestation a dégénéré à Paris samedi. De nombreuses personnes de la communauté afghane étaient réunies. Elles ont rendu hommage aux victimes de l'incendie rue de Charonne le 7 avril dernier. Mais les événements ont pris une autre tournure. La police a dû intervenir. Les commerçants ont rapidement réagi. Écoutez.
Plein de gens devant et donc quelques-uns qui voulaient en découdre et jeter des trucs dessus. Ils ont commencé à prendre les tables et les chaises. Et ils ont caillassé le bus, puis notre baie vitrée. Et après, ça s'est vite reparti en courant vers là-bas. Et c'était les gens plus calmes qui sont arrivés. Et donc après, il y a les CRS qui sont arrivés, qui ont encerclé devant le restaurant et ils sont repartis.
Ils ont commencé à faire du bruit, à taper contre les vitres, sur les poubelles. Ils ont lancé les poubelles contre le bus. Du coup, les policiers ont commencé à gazer la rue. Le seul problème, c'est que les portes étaient grandes ouvertes. Du coup, tout est rentré dans la boulangerie. Du coup, nous avons dû fermer les portes d'urgence, faire sortir les clients par derrière. Ils étaient tous en train de tousser, ils étaient tous dans le mal, quoi.
Toujours à Paris, des milliers de personnes ont défilé dimanche contre les racismes et l'islamophobie. La marche avait été interdite par le préfet de police, puis autorisée par la justice. Les manifestants sont partis de Barbès pour rejoindre la place de la République. Ils ont répondu à l'appel d'une cinquantaine d'organisations, dont la France insoumise. La ville de Grande-Synthe fait toujours les gros titres de l'actualité. Ces derniers jours, son maire lance un appel au calme. Il fait suite aux derniers épisodes de violence dans cette ville du Nord. Il ne veut pas d'un sentiment de vengeance parmi les habitants. On fait le point sur place avec Charles Pousseau.
C'est après la nouvelle agression survenue dans la nuit de vendredi à samedi que les forces de l'ordre sont plus présentes ici à Grande-Synthe. L'agression qui a visé un adolescent de 15 ans, le cousin de l'un des mis en cause dans l'agression mortelle du jeune Philippe. On ne connaît pas encore les raisons de cet acte, s'il s'agit d'une vengeance ou non. Le maire, lui, n'a pas voulu commenter cette agression, mais il appelle une nouvelle fois au calme. Il demande à ses habitants de ne pas faire justice eux-mêmes et de rester dignes. En fait, ce que la mairie redoute, c'est que la psychose s'installe dans la ville. Et justement, nous avons discuté avec plusieurs commerçants qui nous expliquent que les gens ont effectivement peur, mais ce n'est pas une raison de s'arrêter de vivre. C'est les parents surtout qui sont inquiets pour leurs enfants. Un jeune nous confiait même que ce ne sont pas des événements récents, c'est déjà arrivé dans le passé. Tout le monde ne souhaite finalement qu'une chose, c'est un retour au calme le plus rapidement possible.
Dans ce contexte, 67% des Français souhaitent la généralisation d'un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23 heures sur l'ensemble du territoire. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Objectif, lutter contre la violence et la délinquance chez les jeunes. À Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, justement, depuis 20 ans, le maire prend un arrêté pour interdire aux moins de 13 ans de sortir seul la nuit. Et selon lui, le couvre-feu est très efficace. Reportage de Stéphanie Rouquier.
Elle fait partie des villes les plus sûres de France. Cagnes-sur-Mer œuvre quotidiennement pour la sécurité de ses 50 000 habitants avec un dispositif spécifique pour les moins de 13 ans. Depuis 2004, tous les ans, un couvre-feu est mis en place pour ces jeunes non accompagnés de 23h à 6h d'avril à fin octobre.
La raison principale au début, c'est la protection des enfants. Parce que il est, selon moi, inadmissible qu'un gosse de 8 ans, 9 ans se balade à 3h du matin tout seul dans la ville. Aujourd'hui, on a confirmation, j'allais dire tous les jours, de ce qui se passe dans nos villes. Vous imaginez ? Moi non. Et tout le monde sait que l'éducation du trottoir n'est pas favorable pour les enfants.
Trois secteurs de la ville sont concernés. En cas de constatation de non-respect du couvre-feu, un signalement est transmis au procureur de la République. Mais depuis 2011, aucune interpellation n'a été réalisée. Les jeunes et les parents saluent le dispositif.
Franchement, oui, ça aide trop les parents, là. Ça le rassure, en fait.
C'est la porte ouverte à tout, hein. Après, voilà, ils font des bêtises et... Beaucoup de bêtises, même, parce qu'il y a des effets de groupe, ils s'entraînent entre eux.
Et s'il y a des enfants dehors, ils peuvent se faire kidnapper ou je sais pas.
Tu respectes ?
Oui, je respecte.
Cet arrêté de Cagnes-sur-Mer a déjà inspiré d'autres communes, dans le Calvados, le Gard ou en Gironde.
Insécurité et délinquance, le gouvernement a communiqué des statistiques de la situation en France en janvier 2024 et ce constat est sans appel. Les chiffres sont en nette augmentation en 2023. Les détails de Noémie Hardy et Dounia Tangour.
L'année dernière, le nombre de victimes d'homicides était de 1010 victimes contre 823 en 2020. En 2023, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus augmentent fortement dans le cadre familial, plus 9% contre 4% hors du cadre familial, une croissance qui s'observe depuis des années.
Il y a un retournement de tendance accéléré et intensifié, avec des gens plus jeunes, plus violents, plus souvent condamnés qu'on ne le dit, mais très tardivement. En fait, la justice, elle n'est pas laxiste, elle est lente.
Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, la part de délinquance commise par les étrangers est en hausse depuis 2016. 38% pour les cambriolages en 2023 contre 26% il y a 8 ans. 40% des vols dans les véhicules contre 18%. 31% pour les vols violents sans armes contre 21%. En France, la plupart des indicateurs de la délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationale sont en hausse en 2023, mais en ralentissement par rapport à l'année précédente.
Une expérimentation a débuté en France mercredi dernier. C'est l'amende forfaitaire pour le port d'une arme blanche ou de catégorie D. Elle a été mise en place dans 12 juridictions et elle pourrait être étendue sur l'ensemble du territoire à l'approche des JO de Paris cet été. Mathilde Ibanez.
Pour aider au mieux les forces de l'ordre et faciliter leur travail de terrain, les policiers et gendarmes ont depuis mercredi un nouvel outil à leur disposition, leur permettant de réprimer immédiatement une personne porteuse d'une arme de catégorie D, comme une matraque, lacrymogène ou encore un couteau poignard, avec une amende de 500 € et la destruction immédiate de l'arme sans forcément l'emmener en garde à vue et entamer des poursuites pénales.
Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle est une des réponses judiciaires possibles à la commission de certaines infractions et ne prive en rien le parquet d'engager des poursuites judiciaires s'il estime opportun, en lieu et place de l'amende forfaitaire délictuelle. Un placement en garde à vue et des poursuites pénales peuvent ainsi être décidés dès lors que la nature de l'arme, le profil de l'auteur ou toute autre circonstance particulière le justifie.
L'application de l'expérimentation a été prévue par l'article 25 de la loi du 24 janvier 2023, portée par le ministre de l'Intérieur puis adoptée par le Parlement à une large majorité.
L'amende forfaitaire délictuelle s'inscrit dans une logique de répression accrue de ce type de comportement. Il ne s'agit donc aucunement de baisser les bras, bien au contraire.
Il s'agit d'une expérimentation qui pourra conduire à un amendement de la doctrine d'emploi communiquée au parquet et aux forces de l'ordre par le ministère de l'Intérieur.
On en vient à la galère des usagers de la A13. Elle se poursuit ce lundi. L'autoroute reste fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson en raison de fissures sur la chaussée. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, demande à l'État de prendre en charge la gratuité de l'A14 pour garantir l'accès à Paris pour tous durant les travaux et à SNCF Transilien de renforcer l'offre de transport en commun à l'ouest. Et d'autres élus comme Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, réclament également la gratuité de l'A14 et du duplex de l'A86 pendant les travaux. On l'écoute.
10,60 €, c'est le prix de l'autoroute A14.
Je dis souvent que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Aujourd'hui, une situation exceptionnelle, cette fermeture de la 13, ça peut arriver. Mais vraiment, ça peut arriver. Mais on a le droit aussi d'anticiper. Et anticiper avec la gratuité de l'autoroute A14 me semble frapper du bon sens, comme d'ailleurs la gratuité du duplex A86. C'est la raison pour laquelle j'appelle évidemment les responsables de la Société des autoroutes Paris-Normandie à faire en sorte de pouvoir faire la gratuité de cette autoroute A14 jusqu'à la réouverture mardi de l'autoroute A13.
Dans le reste de l'actualité, le salut nazi du maire de Villeneuve-Saint-Georges en conseil municipal samedi ne passe pas. La préfète du Val-de-Marne a saisi la justice en exclusivité sur CNews. L'élu divers droites évoque un geste regrettable. Il est revenu sur le contexte, une discussion houleuse en pleine séance avec l'écologiste Birol Bihic.
Je lui ai répondu que je n'admettais pas qu'il s'adresse de cette manière, qu'il qualifie la majorité municipale d'extrême droite. Bon, il m'a répondu, le ton est monté. J'ai suspendu le conseil municipal pour aller le voir. Je suspends le conseil, bon, les gens bougent, moi je me lève, je vais le voir, je le vois, il me regarde, et là j'ai ce geste malheureux, je lève le bras, le salut hitlérien, bon, que je regrette. Mais j'étais excédé, poussé à bout, j'étais en colère, et je voulais lui dire ce que je pensais de lui. Il me traite d'extrémiste, je lui réponds de la même manière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas me défiler, je l'assume. Je l'assume, c'est une erreur. Et c'est pas du tout mon genre. Mais j'étais excédé. J'en ai assez de ça.
Son confrère de Mions, près de Lyon, a quant à lui jeté l'éponge. Il l'a annoncé samedi sur les réseaux sociaux après une longue période de réflexion. Claude Cohen évoque notamment les propos antisémites permanents dont il fait l'objet.
J'ai été la première fois déposé plainte parce qu'on a voulu me décapiter. La personne a été entendue 2 heures en gendarmerie, libérée, on lui a fait un rappel à la loi. Un jour, on a fait un dessin de moi ratatouille, c'était le rat, avec tous les dessins que vous connaissez, tous les dessins qui venaient des propagandes nazies. J'ai été déposé plainte, j'ai pris un avocat, la personne a été condamnée à 3 mois de prison, et ensuite, non-lieu, parce qu'il y a eu une erreur de procédure. Comme je m'apercevais que la justice ne suivait pas, dans la mesure où ces gens-là n'avaient que des rappels à la loi, systématiquement, quand j'avais des insultes, des propos antisémites, je ne voulais plus y aller.
La popularité de Gabriel Attal en baisse en avril. Le Premier ministre perd 4 points par rapport à mars. C'est le résultat de sondages Ipsos et Ifop publiés dimanche. Les deux instituts notent une hausse de 5 points chez les mécontents. La cote du chef de l'État, elle, reste stable. Et ce 21 avril marquait une date historique, celle de l'obtention du droit de vote des femmes. C'était il y a 80 ans, grâce à une ordonnance du gouvernement provisoire du général de Gaulle. Bamba Gueye et Sarah Varni.
Le 21 avril 1944, quelques mois avant la fin de l'occupation allemande, les femmes devenaient électrices et éligibles. C'est grâce à l'ordonnance du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire français à Alger, que les femmes obtenaient le droit de vote il y a tout juste 80 ans. Un an plus tard, le 29 avril 1945, les Françaises déposaient pour la première fois leur bulletin dans l'urne pour les élections municipales. Dans les bureaux de vote, l'enthousiasme était important. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont fiers de ce droit acquis.
Quand je suis née, les femmes n'avaient pas le droit de vote. J'ai voté dès que j'ai pu, dès que j'étais majeure. J'ai toujours voté tout au long de ma vie, à tous les votes possibles.
On a perdu beaucoup de temps. Parce que les femmes devraient avoir le droit de voter depuis toujours. Parce que je suis purement et simplement pour l'égalité des sexes.
Ça a impacté plusieurs pays européens à la même époque. Et moi, je viens d'Italie et le vote des femmes était en 1946. Une grande libération, une grande affirmation des femmes.
La France n'était pas pionnière dans ce domaine. Dès 1893, la Nouvelle-Zélande a été le premier pays dans le monde à accorder le droit de vote aux femmes. En Europe, c'est la Finlande qui garantit en premier ce droit en 1906. Une étape importante est tout de même franchie, même s'il faut attendre 1965 pour que la loi autorise les femmes à ouvrir un compte en banque à leur nom sans l'autorisation de leur mari.
On ouvre notre volet international avec cette déclaration de Benjamin Netanyahou. Dimanche, nous lui porterons de nouveaux coups durs. Il fait référence à la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien promet d'accroître la pression militaire et politique sur le Hamas dans les prochains jours.
Nous porterons au Hamas de nouveaux coups durs et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire.
Sur le terrain, les bombardements de l'armée israélienne ont à nouveau frappé la bande de Gaza. La ville de Rafah notamment a été prise pour cible dimanche. Selon la défense civile, des frappes sur deux maisons ont fait au moins 16 morts. Sur place, la population est désemparée.
Je ne ressens plus rien. Nous avons perdu tout le monde. Trouvez-moi un homme qui a été ciblé. Ce sont tous des femmes et des enfants devant vous. Vous pouvez lire leurs noms.
La population entière est morte. Personne n'a pitié, ni à l'intérieur, ni à l'étranger. Tout le monde regarde le peuple palestinien se faire tuer. Qui a eu pitié de nous?
Ils dormaient. Ils n'ont pas reçu d'avertissement préalable pour évacuer. Il s'agissait de 15 enfants, pas de militants. Des enfants de 5 ans, 6 et 10 ans.
La population de Tel Aviv en Israël s'est à nouveau rassemblée samedi. Les manifestants protestent contre le gouvernement Netanyahou. Ils réclament notamment la tenue d'élections dans les plus brefs délais et la libération des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. Reportage de Régine Delfour.
Cela fait 197 jours que Michael Levy vit un enfer. Son frère Or a été kidnappé le 7 octobre au festival Nova. Il s'apprête pour la première fois à vivre Pessah, la Pâque juive, sans lui.
Ce ne sera pas la fête de la libération. C'est impossible cette année de donner cette signification, car mon frère est otage dans la bande de Gaza. Nous n'allons pas célébrer Pessah comme d'habitude. Il y aura le repas lundi soir et les prières, mais ce ne sera pas festif. On sera chez mes parents avec mes frères et sœurs, seulement la famille proche.
Sur cette place de Tel Aviv, rebaptisée la place des otages, des milliers d'Israéliens sont rassemblés comme chaque samedi. La célébration de Pessah est dans tous les esprits.
C'est la fête de la libération en plus. Pessah et la libération sans que 133 otages soient libérés, c'est vraiment un cauchemar. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot.
Cette année, dans chaque famille israélienne, une place à table restera libre pour le dîner de Pessah.
De tout notre cœur, on va penser aux soldats, bien sûr, et puis surtout aux otages, bien sûr. Spécialement cette année, on sera encore plus ému que d'habitude. Oui. On va laisser une chaise vide, on prie. Nous prions tous les matins pour la libération des otages, tous les matins.
Parmi les 133 otages retenus dans la bande de Gaza, 3 sont français.
Allez, tout de suite, place au journal des sports. On démarre avec du football et la victoire du Paris Saint-Germain face à Lyon. On démarre ce journal des sports avec du football et la Ligue 1. Le PSG poursuit sur la lancée de son exploit à Barcelone. Sans Kylian Mbappé laissé sur le banc, les Parisiens ont écrasé Lyon dimanche. Tout s'est joué en première période. Paris inscrit 2 buts coup sur coup à l'image d'un Beraldo bien lancé. Ramos poursuit les efforts parisiens et inscrit un doublé juste avant la mi-temps. La réduction du score lyonnaise n'y changera rien. Score final 4-1 pour les hommes de Luis Enrique qui se rapprochent du titre. En première ligue, Liverpool devait absolument l'emporter pour ne pas laisser le leader Arsenal prendre le large. Le ton de la rencontre est donné dès la 30e minute de jeu. Alexander Arnold, ce superbe coup franc, inscrit le but pour Liverpool. Malgré la réduction du score de Timothy Castagne, les Reds reprennent les devants dès le début de la seconde période sur cette frappe de Gravenberch. Jota permet à Liverpool de l'emporter 3-1 et de revenir à hauteur d'Arsenal en tête de la Première Ligue. En Espagne, match de gala entre le Real Madrid, leader du championnat, et son dauphin Barcelone. Les Blaugrana ouvrent la marque dès la 6e minute de jeu. Le Real répond grâce à Vinicius sur pénalty. En deuxième période, Barcelone reprend l'avantage grâce à Lopez. Mais 4 minutes plus tard, Vasquez sonne la révolte madrilène. L'inévitable Jude Bellingham libère finalement tout un stade dans le temps additionnel. Victoire 3-2 du Real Madrid qui fait un grand pas vers le titre en Liga. Mad Max, l'indétrônable, a encore frappé en Formule 1. Le leader du championnat du monde a remporté le Grand Prix de Chine dimanche. Mais derrière, le Néerlandais, notre pilote, a marqué les esprits. On fait le point avec Laurent Dupin et Franck Montagny.
Il y a la nouvelle victoire de Max Verstappen, Franck Montagny, mais pour la première fois de l'année, on n'a pas eu un doublé, ni de Red Bull, ni de Ferrari comme en Australie, parce que Lando Norris s'est immiscé entre les Red Bull. Est-ce que c'est l'homme du jour, le pilote McLaren?
Ouais, clairement, c'est l'homme du jour. Il a bien travaillé, il a bien roulé. Ils ont bien évolué tout le week-end. Je crois que cette écurie, en fait, là, leur grosse force, c'est l'évolution qu'ils ont sur une saison, pendant une course. Ils sont venus ici très peu confiants. Ils ont même annoncé, on va essayer de limiter les dégâts. Ça va être une course très difficile pour nous. Au final, il fait deuxième et il le fait bien. Hein. Il finit à 12 secondes. Il finit devant Perez avec pas mal d'avance. Belle course. Il a bien rythmé. Il a bien roulé. Et même lui, ça l'a étonné.
Oui, il était étonné maintenant. Hier, il était effectivement très pessimiste. Notre écurie qui progresse, mais peut-être un petit peu moins vite. Mais quand même, on va souligner la performance d'Alpine. Toujours pas de points marqués, malheureusement, après 5 Grands Prix. Mais Ocon ne finit qu'à 2 secondes de la 10e place.
Ouais, alors le temps, il faut prendre des pincettes. Parce que comme il y a eu un gros safety car au milieu, on s'est un petit peu tout mélangé. Mais clairement, la voiture est mieux. C'est-à-dire que sur les premières courses, elle était en dernière ligne quasiment à chaque fois, les deux. Et ça remontait 15e, 16e à tout casser. Là, on arrive aux portes des points. Donc, on ne sait pas du tout là où on devrait être. Mais c'est de mieux en mieux. Ça évolue. Ça commence à trouver un petit peu des solutions. Attention, quand on fait des évolutions comme ça, à ne pas se tromper. Un seul changement à la fois. Et si on se trompe dans ce changement-là, après, ça complique le développement de la voiture. Mais pour l'instant, c'est du très positif pour Alpine.
La Formule 1 quitte l'Asie. Prochain rendez-vous dans 2 semaines à Miami.
C'est la fin de votre journal. À suivre, une nouvelle édition avec à la une la marche organisée samedi rue de Charonne à Paris s'est transformée en cortège sauvage. Elle était organisée en hommage aux victimes du récent incendie. Des voitures et du mobilier ont été dégradées. Vous entendrez les commerçants des alentours.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.